Et on va lire ensemble un événement, une histoire, des circonstances très fortes qui se sont produites dans la carrière d'un roi célèbre de l'Ancien Testament. Et on trouve ce récit dans le livre de Daniel, le prophète Daniel, au chapitre 4. Et on va faire une lecture relativement longue, mais c'est tellement captivant. À partir du verset 24 et jusqu'au verset 37, Daniel, chapitre 4, le verset 24. Voilà, c'est donc le prophète Daniel qui s'adresse à Nebuchadnezzar pour lui donner l'explication d'un songe, d'un rêve. Voici l'explication au roi, voici le décret du Très-Haut qui s'accomplira sur mon seigneur le roi. On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, et l'on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Tu seras trempé de la rosée du ciel, et 7 temps passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. L'ordre de laisser le tronc où se trouvent les racines de l'arbre signifie que ton royaume te restera quand tu reconnaîtras que celui qui domine est dans les cieux. C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire. Rachète tes péchés par des bienfaits et tes iniquités par la compassion envers les malheureux, et ton bonheur pourra se prolonger. Toutes ces choses, se sont accomplies sur le roi Nebuchadnezzar. Au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit « N'est-ce pas ici Babylone la Grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence ?» La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendit du ciel. « Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. On te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger, et 7 temps passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. » Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes, il mangea de l'herbe comme les bœufs, son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce que ses cheveux crussent comme les plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant, il agit comme il lui plaît, avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre, et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui disent « Que fais-tu ?» En ce temps, la raison me revint. La gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues. Mes conseillers et mes grands me redemandèrent. Je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance ne fit que s'accroître. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil, et dans ce domaine, c'était le champion. Mais Dieu s'est révélé à son cœur. On va ensemble méditer cet événement spectaculaire, absolument imprévisible, qui a été un événement absolument décisif dans le règne de ce grand roi Nebuchadnezzar. Les historiens nous renseignent, il s'agit de celui que on appelle Nabucodonosor, le deuxième du nom. Il a régné dans le VIe siècle avant Jésus-Christ, et il a été un roi très puissant. Sa notoriété allait jusqu'aux extrémités de la terre. La magnificence de Babylone était à son apogée, et il va se passer une expérience très forte, et il fallait qu'elle soit forte vu la couche épaisse d'orgueil qui était chez cet homme, pour engendrer chez lui un revirement salutaire qu'il va exprimer par une phrase, et ce sera la phrase directrice de ce message. Moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. C'est l'expression que je voudrais développer ce soir en particulier, parce que ce geste d'un roi réduit dans un état bestial, imaginez ses cheveux comme des plumes d'aigle, ses ongles comme des serres de rapace, imaginez son accoutrement, sa posture, les grognements qu'il émet. Brusquement, il va décider un geste qui va tout changer. Et j'aimerais vous parler du geste qui peut tout changer. Et ce geste, c'est « je levais les yeux vers le ciel ». Et tout le cours de ce message va nous amener à nous interroger sur la gestion de nos yeux, de nos regards. Car selon la direction vers laquelle nous portons nos yeux, il y aura des conséquences soit douloureuses, malheureuses ou miraculeuses et glorieuses. Lesquelles voulons-nous ? Les glorieuses. Amen. Alléluia. Les miraculeuses. Eh bien, la Bible nous enseigne que l'une de nos responsabilités de croyants, c'est la gestion de notre regard. Ce qui a sauvé Nebuchadnezzar, ce fut un geste qui a saisi son être et qui l'a poussé à lever les yeux vers le ciel. Conséquence immédiate, la raison me revint, va-t-il dire, et c'est donc l'intelligence revient, la lucidité revient, la sagesse descend sur lui, mais qu'il me soit permis de dire que la raison et l'intelligence qui lui viennent sont infiniment supérieures à celles qu'il avait avant que l'épreuve ne le terrasse, parce qu'il avait jadis une certaine forme d'intelligence, mais humaine. Parce que quand même, pour construire une Babylone de manière à en faire une cité impressionnante, il fallait quand même avoir de l'intelligence. C'est l'intelligence humaine. Pour mener son règne à une telle expansion, il fallait quand même avoir une certaine intelligence. Mais après l'épreuve, certes sévère, certes dure et violente, qui brise l'orgueil de cet homme et qui le poste plus bas que le plus modeste des humains, au rang des bêtes, après cette épreuve, il ne voit qu'une seule issue, tous l'ont abandonné. Ses conseillers, ses lieutenants, les satrapes, les juristes, les responsables, les gouverneurs, tous l'ont chassé. Il ne lui reste qu'un seul recours. Et mes frères et mes sœurs, c'est sur ce recours merveilleux que j'aimerais insister ce soir, c'est de lever les yeux vers le ciel. Amen. Gloire à Dieu. Lever les yeux vers le ciel, c'est une posture et un geste qui revient quand même souvent dans les récits des Saintes Écritures. Jésus lui-même, dans certaines circonstances, a levé les yeux vers le ciel. Il est devant le tombeau de Lazare, évangile de Jean chapitre 11, il est en compagnie de deux femmes effondrées et de toute une foule affligée et endeuillée, il vient, après avoir dit « Je suis la résurrection et la vie », face à ce tombeau obstrué par une immense pierre, Jésus leva les yeux vers en haut. Amen. Et il fit cette simple confession immédiatement. Alors qu'on avait roulé la pierre, Lazare ressuscite, il sort vivant du tombeau. C'est un geste pédagogique. C'est comme si le Seigneur était en train de nous dire avec insistance, le vrai secours vous viendra toujours d'en haut, du ciel, du Dieu du ciel, du Dieu qui règne dans le ciel, mais aussi qui a tout pouvoir sur la terre. Il tient les temps et les circonstances. Avant d'entrer dans quelques détails, j'aimerais encourager quelqu'un à lever les yeux vers le ciel. C'est là, à ce moment précis, que tu vas expérimenter que ton Dieu est vraiment le Dieu secourable. C'est du Père des Lumières que descendent d'en haut tout don parfait et toute grâce excellente. Moi, je m'attends aux ressources du ciel ce soir. Alléluia! Et je m'attends à vivre, à expérimenter des bénédictions, des miracles. Nous disons qu'à chacune de nos rencontres, la présence du ressuscité est une réalité. Nous l'affirmons, mais à partir de là, nous sommes en disposition pour recevoir du ciel la bénédiction qui correspond à notre situation. Que Dieu soit béni. Alléluia. Un soir de semaine, dans une ZUP, je prêchais la parole de Dieu et il y avait deux ados dans l'auditoire. Et c'était pas du tout prévu, en tout cas par nous, par Dieu, oui. À un moment donné, ils sont convaincus de péché, les deux, 15 ans, hein, convaincus de péché, ils se mettent à pleurer bruyamment, ça a même dérangé la fin de la prédication, mais tant mieux, ces embarrassements, c'est bon, moi je voudrais en vivre encore plus, hein. Et ils étaient inconsolables, frères et sœurs, l'heure avait tourné, on avait dépassé d'un bon quart d'heure la clôture de la réunion, mais j'étais empêché d'arrêter la réunion parce que ils étaient en train de pleurer encore, demander pardon pour leur péché. 15 ans, et le Saint-Esprit, brusquement d'en haut, était en train de les visiter. Gloire à Dieu, hein? Que Dieu soit béni. Il peut se produire à tout moment, je me souviens de cette réunion, un dimanche après-midi, une personne, une dame, avait été invitée par une chrétienne, elle était là pour la première fois. Et c'était la prédication. Et pendant la prédication, dans un coin de l'auditoire, nous entendons des bruits de voix, une sorte d'effervescence. Alors, dans un premier temps, on se dit, oh, il dérange le prédicateur, hein. Mais après, quand on a compris la raison de cette émotion, la femme qui avait été invitée, qui était là pour la première fois, était sourde. Et en cours de prédication, d'en haut, Dieu enlève sa surdité, il ouvre ses oreilles, et ce qu'il était en train de dire, c'est « J'entends » à son amie chrétienne, qui lui a répondu « T'entends, mais c'est bien, t'entends ?»« J'entends !» Il y a eu un miracle subite du ciel, d'en haut, d'une manière soudaine et saisissante, le Seigneur peut nous visiter d'en haut, lorsque nous sommes rassemblés, dans ta chambre, dans ta cuisine, ton bureau, lorsque à genoux, à mi-voix, parce que c'est très tôt le matin, tu ne veux pas réveiller le quartier, tu épanches ton âme au pied du Maître. Tu es en train de lever tes yeux vers le ciel. Alors tu es en position, en disposition d'expérimenter quelque chose d'en haut, du ciel. Dieu va faire écho à ta prière et à ce geste décisif de lever tes yeux vers lui et il va te visiter, il va te bénir d'une manière qui correspond précisément au besoin qui est le tien ce jour-là dans tes circonstances particulières. Mes bien-aimés, entretenons en nous ces dispositions de foi qui s'attendent du ciel aux réponses de Dieu, aux exaucements, aux échos bénissants que Dieu va réserver à nos prières. Tout simplement parce que un roi païen orgueilleux a levé les yeux vers le ciel, l'intelligence de Dieu lui a été donnée. Plus que ça, Dieu s'est révélé à lui. Parce que les conséquences, elles sont absolument sublimes. Il se met à parler de l'éternel Dieu avec une connaissance, une précision. Vous avez remarqué les paroles qui sortent de sa bouche. Il est éclairé de l'intelligence d'en haut. Il a compris les réalités spirituelles et célestes. Il est complètement bouleversé. Et vous savez quoi? Vous savez quoi? Lorsque Dieu, dans sa bonté, le rétablit, lui rend son royaume, lui rend ses soutiens, il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne s'octroie pas le mérite de ce relèvement. Il dit simplement, maintenant que j'ai été rétabli, la sagesse est revenue et bien supérieure à l'ancienne. J'ai retrouvé mon rayonnement de roi. Eh bien maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je ne suis plus le même qu'avant. Je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux. Humblement. Dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil, ça, il parlait déjà de lui. Mais c'est aussi un principe général, que le Seigneur soit béni. Mon frère, ma sœur, lève les yeux vers le ciel. Ma Bible me dit, quand on tourne vers lui les regards, alors le visage ne se couvre pas de honte, et on est rayonnant de joie. Levez les yeux vers le ciel. Je parlais de notre responsabilité, ça m'appartient, ça t'appartient, de gérer vers quelle direction je vais orienter mes yeux. Et j'ai relevé trois mauvaises directions. On va terminer par la bonne direction. Hein? On fait comme ça? On commence par le désagréable et on finit par un bon dessert. Moi, c'est comme ça que je faisais quand j'étais gosse. Ma mère, elle me servait des légumes, mais pour que les légumes passent, elle me préparait un bon dessert à la fin. Voilà, si tu finis tes légumes, que je n'aimais pas du tout, alors après je me régalais du dessert. On va vite faire avec les trois points négatifs, les trois sortes de regards qu'il faut à tout prix éviter. Je parlerai premièrement du regard périphérique. dans le chapitre, fameux chapitre 41 du prophète Ésaïe, Dieu parle à son peuple et lui dit « Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. » Amen. Le regard périphérique, c'est le regard qui a perdu ses repères, qui se cherche. C'est l'expression d'une personne désemparée, déroutée, et qui est en proie à un trouble intérieur, le regard périphérique. Je crois qu'il faut éviter le regard périphérique, parce qu'il va nous enfoncer plus encore dans de l'agitation intérieure. Et je pense même que ça peut concerner, un certain public particulier, par exemple, de regarder au pasteur, un regard horizontal, de regarder au pasteur. Et un jour, c'était à Marseille, mais il n'y a qu'à Marseille qu'on voit des choses comme ça. Hein. À Marseille, il y avait une mamie de l'église de Sébastopol, mais ça fait très très longtemps en arrière. C'était à l'époque où le pasteur Lucien Vivier était le pasteur principal de l'église de Sébastopol. Et il y avait une mamie qui était fatiguée, comme on dit là-bas. Mais fatiguée là-bas à Marseille, ça veut dire que c'est quand même urgent. Hein. Alors, elle demande la visite du pasteur. Et Monsieur Vivier était très très pris déjà. Alors il envoie le pasteur en formation, le stagiaire, qui y va, mais de tout son cœur. Il s'était préparé dans la prière pour être en bénédiction pour la mamie. Et il sonne, et la mamie ouvre, et là, elle est déçue. Mais c'est pas Monsieur Vivier qui vient. Comme s'il pouvait exister un calibrage différent de bénédiction en fonction de l'homme. C'est pas un homme qui me bénit, c'est Dieu qui me bénit. Oui ou non? Alléluia. Et le regard périphérique, c'est le regard horizontal, et on cherche des appuis, on cherche du réconfort, mais dans une mauvaise direction, en fait. Il peut se produire que Dieu inspire un frère ou une sœur ou un pasteur, quelquefois il y a des pasteurs aussi inspirés, bon voilà, c'est comme ça, et que ponctuellement il missionne, ça c'est autre chose. Mais quand je suis dans un moment de lessiveuse, je suis pris dans mes pensées et j'arrive difficilement à me stabiliser, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Quelqu'un peut-être se trouve dans cette description d'une âme agitée, ayant perdu ses repères, ses points d'ancrage qui faisaient sa stabilité, mais là, peut-être, depuis quelque temps, tu es complètement dans une phase de un peu de perdition, tu ne sais plus où tu en es. Évite le regard périphérique. Deuxième mauvaise direction, c'est celle que j'ai appelée le regard introspectif. Quand je tourne mes regards vers moi-même, le prophète Jérémie disait ces paroles bien connues, hein, « Quand je pense à ma détresse, à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. » Le regard introspectif, le regard qui est dirigé vers ce que je suis, l'état dans lequel je me trouve. Parce que, reconnaissons avec vérité, hein, on n'est pas toujours en bon état. Vous êtes toujours en bon état, vous? Comment vous faites? On n'est pas toujours dans les meilleures dispositions. Est-ce que vous avez toujours des élans d'enthousiasme? Quelquefois oui, mais trop souvent, non. Les dispositions intérieures. Ma marche avec Jésus ne doit pas subir les influences des fluctuations de mes dispositions intérieures. On est d'accord? Je prends un exemple, c'est drôle parce que je reviens toujours, enfin souvent, à ce domaine, la nourriture. Quelquefois, vous vous mettez à table et vous avez un appétit et vous vous régalez, vous savourez. Mais quelquefois, vous n'êtes pas en forme. Et vous n'avez pas envie, rien que la pensée de manger, ça ne vous dit pas quoi. Alors, votre femme vous dit, il faut manger. Et vous dites, oui mon adjudant. Et oui, parce qu'il faut manger. Quelquefois, manger, c'est un plaisir. Mais quelquefois, on n'a pas plaisir, mais on sait qu'il le faut quand même, parce que si on ne mange pas, on a la fringale du cycliste qui, en pleine étape, il a des muscles qui répondent plus, c'est terminé, il n'est plus bon à rien, il faut manger. Eh bien, au plan spirituel, mes bien-aimés, il en est de même. Il en est de même. Je ne veux pas subir les influences de mes dispositions intérieures. Il y aura des jours où mon âme me portera d'allégresse vers la maison de l'Éternel. Oh là là, et je vais chanter ce psaume. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Alléluia, c'est beau quand c'est comme ça, mais c'est pas toujours comme ça. À moins que vous ayez trouvé un secret, on en parle tout à l'heure après la réunion. Hein. C'est pas toujours comme ça. Tu n'auras pas toujours l'âme disposée. Tu n'auras pas toujours, d'une manière spontanée, envie de lire ta Bible, envie de prier. Je dirais même une chose, c'est que par une opposition spirituelle diabolique, c'est justement dans les moments où tu te prépares à lire ta Bible que brusquement il y a une grosse fatigue qui tombe sur toi. Tout à l'heure, tu allais très très bien, mais quand tu veux te mettre en position de prier, de lire ta Bible, brusquement, eh bien, tes dispositions changent, il y a un accablement, il y a de la diversion dans tes pensées, il y a des dispositions peu favorables. J'aime cette expression des trois disciples qui ont été invités par Jésus à monter au sommet de la montagne où il fut transfiguré. Vous connaissez ce récit. Et j'aime cette expression concernant les trois disciples. S'étant tenus éveillés, ils virent Jésus transfiguré. Ils ont vu même Moïse et Élie s'entretenir avec Jésus. Et mais, alors après, je vous assure qu'ils n'avaient plus envie que ça s'arrête. Au point que Pierre va dire, permets-nous, on va mettre trois tentes, une pour Élie, une pour Moïse, une pour toi. C'est trop bien, c'est trop beau, c'est trop bon. On ne descend plus dans la vallée, hein, c'est trop merveilleux. Mais il a fallu, de leur part, une démarche, s'étant tenus éveillés, autrement dit, ils avaient une fatigue qui descendaient sur eux, les accablant d'épuisement, mais eux, ils ont fait cette démarche, ils sont tenus éveillés. Tu as le pouvoir, j'ai le pouvoir de gérer mes dispositions intérieures. Quelquefois, je me prêche, comme l'homme de la Bible se prêche lorsqu'il dit à son âme, « Oh mon âme !» Il prêche à son âme. « Pourquoi t'as battu au-dedans de moi, mon âme ? Bénis l'Éternel, car je le louerai encore. » Amen. Et tu as donc ce pouvoir, par ta foi, eh bien, de t'adresser à ton âme, gloire à Dieu, et de lui dire « Oh, qu'est-ce qui se passe là ? Oh !» Allez, ramène dans ton souvenir, les bienfaits de l'Éternel. Réchauffe-toi, remets-toi dans les bonnes dispositions. Mes frères et mes sœurs, moi je prie pour que la qualité spirituelle de nos cultes et de nos soirées de prière augmente. Amen. Eh oui, parce que quelquefois tu n'auras pas envie de louer Dieu. mais tu vas gérer ce manque de motivation par ta foi et tu vas dire à ton homme, quoi ? Tu vas pas louer le Seigneur ce matin ? Réveille-toi ! Allez, et remets-toi à le louer ! Tu as cette responsabilité, mon frère, ma sœur, de gérer tes dispositions intérieures. Si ton regard introspectif se nourrit de l'absinthe, du découragement qui t'a envahi et des choses bien peu édifiantes, mais tu vas y rester. Mais le Seigneur veut venir à ton secours afin que tu changes d'attitude et que tu changes les dispositions de ton cœur favorablement pour bénir le Seigneur. Il y a un troisième regard qu'il nous faut éviter à tout prix, si on veut pas terminer en flacon de sel. C'est dans la Genèse que je trouve le récit très connu. Vous savez, quand l'ange délivre Lot, sa femme, du jugement qui va tomber sur Sodome et Gomorrhe. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit « Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine, sauve-toi vers la montagne. » Et un peu plus loin dans le récit, la femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. C'est le regard rétrospectif, on peut aussi dire nostalgique ou rétrograde, le regard rétrospectif, regarder derrière soi, c'est ce qui a si souvent porté problème au sein du peuple d'Israël et irrité quand même le Seigneur, lorsque dans des périodes un petit peu d'amertume et de soulèvement, le peuple disait à Moïse, en Égypte, nous avions des oignons, des légumes, de l'ail. Ils avaient surtout des coups, mais le regard nostalgique, le regard qui regarde en arrière, ce sera une des nombreuses ruses que le diable utilisera à notre égard, de nous convaincre de ce mensonge lorsqu'il vient nous dire « T'as vu, depuis que t'es baptisé, ben tout va mal. Depuis que t'es baptisé, t'as perdu tes copains. » Nous, quand on a pris le baptême, ma mère, moi-même, plus tard mes deux sœurs, quasiment toute la famille nous a tourné le dos. Nous, on continuait à les aimer, il n'y a pas de problème, mais ça leur a tellement déplu que pendant des années, ils sont restés en rupture de relations familiales. Après, dans le temps, les choses se reconstruisent. Mais nous avons beaucoup souffert de cela, n'est-ce pas ? Et l'adversaire ne manquera pas d'essayer de te convaincre que finalement, eh ben, t'es plus heureux avec les inconvertis. T'es plus épanoui avec tes fréquentations du quartier. Moi, je me souviens, un bon frère, vraiment un frère que j'aimais beaucoup, que j'aime toujours, il est toujours vivant, un jour dans un moment de dépression personnelle, en pleurant, il m'a dit « Pasteur, comment ça se fait que je suis plus heureux avec les inconvertis que dans l'église ?» Et quand on n'est pas en forme, eh ben tout est déformé. Et on ne pense plus d'une manière lucide, réaliste. Et on est tenté par le regard rétrospectif, rétrograde. On doit regarder derrière. Vous vous rendez compte, à Sodome et à Gomorre, il n'y avait que le mal qui régnait, la corruption, les mœurs complètement désaxées et avilissant, il n'y avait rien d'attirant à Sodome et Gomorre, mais à un moment donné, quand elle entend le fracas du feu qui descend sur Sodome et Gomorre, elle regarde en arrière, comme pour dire, « Oh, j'ai laissé là-bas quand même une partie de ma vie, un regard nostalgique. » Mes frères et mes sœurs, je vous dis une chose, et j'espère que vous partagez la chose, moi, Si à 16 ans et demi, je pouvais tout recommencer, je ferais exactement comme j'ai fait. Si c'était à refaire, je refais comme j'ai fait. Et ce que j'ai fait, c'est de donner mon cœur à Jésus dans mon adolescence. Et j'ai vécu tout au long de ces 50 ans la fidélité infaillible du Seigneur, sa générosité dans les bénédictions, sa patience dans l'éducation par laquelle il m'a fait et continue de me faire passer. Et si c'était à refaire, si d'un salto arrière, je reviens à 16 ans et demi, je refais la même chose. Chaque fois que je me remémore toutes ces étapes, toutes ces expériences, et ça m'arrive assez souvent, mon cœur est inondé d'émerveillement. Je dis, Seigneur, quel Dieu merveilleux tu es. Si je dois recommencer, je fais pareil. Je te donne mon cœur le plus tôt possible. Mon frère, ma sœur, ne regrette pas d'être enfant de Dieu. Parce que être l'enfant de ce Dieu merveilleux, c'est le privilège le plus inestimable qui soit. Que Dieu soit béni. Voyez de quel amour le Père nous a aimés pour que nous soyons enfants de Dieu. Et nous le sommes. Alléluia. Et ça doit être, je dirais, l'élément moteur principal qui alimente ma louange et mon émerveillement. Je bénis Dieu pour mille raisons, mais essentiellement, je le bénis de le connaître, d'être son enfant et de l'avoir comme Père céleste. Que Dieu soit béni. Et j'interdis à mes yeux de se tourner vers l'arrière. D'ailleurs, Paul confirme dans un langage encore plus radical, rejetant ce qui est en arrière. Je me porte vers l'avant. Alléluia. Que Dieu soit béni et qu'il nous encourage. Alors le regard que je vais bien sûr vous conseiller, c'est de lever les yeux vers le ciel. Et je prendrai comme dernière référence biblique ce texte aussi que vous connaissez bien dans Hébreux 12, les premiers versets, les trois premiers versets. « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus. Le chef est le consommateur de la foi. D'autres versions traduisent celui qui suscite la foi et qui l'amène à sa perfection, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez, donc regardez, hein, considérez en effet, celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point, l'âme découragée. J'ai conscience de ne pas vous dire quelque chose de très compliqué ce soir, mais je la sais vitale. Donc je vous la répète, gardez vos yeux tournés vers Jésus, d'une manière constante, sans laisser aucune digression possible. Parce que dans ce contact de vos yeux posés sur le Seigneur de gloire, vous allez être entraîné dans un parcours de victoire et de bénédiction. Aussi longtemps que Pierre avait les yeux fixés sur Jésus, il marchait sur l'eau. Oui ou non? Dès l'instant où il a détaché ses yeux de Jésus, il a regardé l'ampleur des creux et des vagues, il a coulé. Sauve-moi, je me noie. Mais ça nous parle, cela. Et vous savez, quelquefois, il peut se produire dans notre parcours un événement subit, violent, qui cherchera à nous déconnecter de Jésus. Au niveau de nos pensées, Si c'est le cas, reconnectons-nous et replaçons nos regards sur Jésus. Parce que dans ce contact que nous avons avec lui, il est celui qui suscite la foi. Gloire à Dieu. J'image un peu, mais il est en train de nous dire, puisque nous regardons à lui, et foi, actionne ta foi, actionne ta confiance. Il va susciter la foi et il va la faire progresser jusqu'à la rendre parfaite. Parfaite, ça veut dire une foi pleinement adulte, mature et accomplie. Donc, j'ai besoin du premier jour où je l'ai rencontré jusqu'au jour où il va m'enlever dans son ciel de gloire, j'ai besoin dans ce contact permanent posé sur sa personne d'évoluer dans les progrès de ma foi, que Dieu soit béni. Je regarde à lui parce qu'il est mon modèle. Amen. Il est mon exemple. C'est un exemple motivant parce que le regarder lui me bouleverse tellement que ça me communique l'envie de lui ressembler. Oui ou non? D'ailleurs, quand il vous arrive une circonstance qui vous déstabilise un peu, la première question que je vous propose de vous poser, c'est qu'est-ce que Jésus ferait à ma place? C'est la référence, hein? Voyez, je sais pas, on vous agresse sans raison, ou même avec raison, je sais pas, on vous inflige une maltraitance, quelle qu'elle soit, etc. Qu'est-ce que Jésus ferait à ma place? Les quatre évangiles ne sont-ils pas remplis de certaines réactions très particulières que Jésus a réservées à des attaques, des pièges autour de lui? Ce que Jésus ferait à ma place, c'est ma référence. Et pour cela, je dois le prendre comme modèle. Je dois garder mes yeux fixés sur Jésus. Et je dois le faire aussi parce que du ciel, j'attends son retour. Amen.